Les cours du Collège de France, génétique humaine, Jean-Louis Mandel.
Voilà, bonjour. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour cette dernière leçon, qui ne sera pas une leçon de concision. Ceux qui me connaissent savent que j'ai tendance à une trop grande prolixité, et je remercie notamment les nombreux collègues du collège qui sont venus. Voilà, donc je vais essayer de faire un petit panorama de ce qui s'est passé dans les 12 dernières années en génétique humaine et génétique de maladie, et quelques perspectives. Et évidemment, ceci résume presque, j'allais dire, 12 ans d'enseignement au collège, et je me suis rendu compte trop tardivement que c'était un peu une gageure. Bon, on essayera. Je prie de m'excuser. Comme je dis souvent quand je commence mes topos, je souffre d'un trouble obsessif compulsif. Je sais que j'ai trop de dia et j'arrive pas à les en enlever. Bien. Donc, ce tableau de Gauguin, pourquoi ? Parce qu'effectivement, les questions « d'où venons-nous »,« que sommes-nous ?»,« où allons-nous » peuvent se transposer au niveau de la génétique. Qu'est-ce que nous avons reçu par l'évolution ancienne ou récente, par exemple des primates, du point de vue information génétique ? Que sommes-nous ? C'est... quelle part, en tout cas, par exemple, de notre santé est dictée par notre génome ? Où allons-nous ? C'est la possibilité. Est-ce que le génome permet de prédire pour l'individu ? Et puis, mais je n'en parlerai pas, ce sujet à la mode, mais qui, je trouve, est trop médiatisé par rapport à son intérêt réel sur la possibilité de modifier le patrimoine génétique humain pour arriver à un homme augmenté. Et je crois qu'en fait, on en est, heureusement, extrêmement loin. Donc, évidemment, la génétique humaine est aussi, pas seulement, mais une discipline médicale qui veut contribuer à prévenir ou traiter les maladies, et donc ça sera un peu aussi des choses dont je vais parler. Donc, voilà le plan. J'espère que j'arriverai presque à la fin. Les révolutions technologiques, souvent imprévues, qui sont, se sont passées dans ces 12 années, pour montrer que tout ne peut pas être planifié. Ce que nous avons appris... quelques snapshots, comme on dit, de l'évolution du génome humain. Ce que nous avons appris, là aussi quelques exemples, sur des maladies à causalité génétique et sur la part génétique des maladies communes, dites multifactorielles, donc interaction entre des variants dans de nombreux gènes et des facteurs de l'environnement. Comment on peut utiliser ces connaissances pour prédire, prévenir et traiter ? Et là, je pense que je vais dire que, alors qu'il y a eu effectivement des progrès dans les séquençages de génome absolument fantastiques, l'aspect traitement est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile, avec beaucoup de déceptions. Et donc, il faut être modeste. Et puis, bon, peut-être quelques perspectives. Alors, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, la plupart le sont, mais... j'aime bien cette diapositive qui donne une idée de la complexité de l'information dans le génome humain. Chaque copie de génome humain, on en a deux, c'est 500 000 pages comme celle-ci. Et à certains endroits de ce génome, il suffit qu'une lettre, un A, soit changée en G ou en T pour avoir des catastrophes, pour avoir par exemple des enfants qui ne parleront jamais. Une base, si elle est mal placée quand elle change sur 6 milliards, peut entraîner effectivement des troubles pathologiques d'une extrême gravité. Donc, quelques-unes des... Alors, mes médias sont souvent trop compliqués, mais je vais essayer de les simplifier. C'est juste pour montrer un peu l'évolution des articles. Donc, je dirais la première révolution en génétique médicale, en tout cas, aussi en génétique même, oui, des maladies. Ça a été peu après ma conférence inaugurale, fin 2004, les premiers articles décrivant ce qu'on appelle communément les puces à ADN, les manières d'interroger le génome, d'interroger les polymorphismes du génome, les variations du génome, ce qu'on appelle les SNP arrays, qui permettent d'analyser 500 000, 1 million de positions différentes. Là, en 2005, ils étaient très contents d'annoncer 100 000 polymorphismes qui peuvent être interrogés. Maintenant, on est largement au-dessus d'un million. Et puis, ce qu'on appelle les puces type CGH array, qui permettent de mesurer le dosage de segments du génome humain. En principe, sur les autosomes, on a deux copies de chaque segment, mais il peut y avoir des variations non pathologiques ou quelquefois pathologiques, qui fait que s'il y a une délétion, on n'a plus qu'une copie au lieu de deux. Si on a une duplication, on a trois copies au lieu de deux. Et nous verrons, par exemple, dans le domaine de la psychiatrie génétique, il y a eu des choses tout à fait intéressantes. Donc, ces différentes puces, les SNP array ont eu et ont toujours une importance absolument majeure pour déchiffrer la génétique des maladies communes, c'est-à-dire quelle est la contribution de variants génomiques dans le risque de développer des maladies communes. Les CGH array, eux, ont eu très rapidement une application diagnostique, notamment dans le cas des maladies neurodéveloppementales, retard mental, autisme, certaines formes de, plus rarement de schizophrénie, etc. Et donc, là, pour vous montrer, premiers articles, j'allais dire, technologiques en 2004, une application dès 2005 sur le retard mental, et en 2010, cet article consensus statement qui américain qui déclare qu'en fait la cytogénétique de papa est morte ou quasiment et que il faut commencer pour les aspects diagnostiques pour les maladies développementales par effectivement ces chromosomes microarrays. Donc ça a été une première révolution diagnostique. La deuxième révolution, c'est la révolution du séquençage. Alors, depuis 1977, où Fred Sanger avait inventé la méthode de Sanger, de séquençage, on était resté 30 ans avec la même méthode qui s'améliorait progressivement et, je dirais, dont l'amélioration suivait à peu près la loi de Moore en informatique, qui est que on a pour le même prix tous les deux ans environ, on multiplie l'efficacité par deux, que ça soit pour les mémoires des ordinateurs, et on avait comme ça ce progrès lent mais tout à fait intéressant du séquençage par la méthode de Sanger. Et puis tout a changé quand, vers 2006-2007, sont apparues des machines, et notamment, pour ne pas les nommer, les machines d'Illumina, basées sur des principes totalement différents, très différents que la méthode de Sanger, et qui ont fait s'effondrer... Le prix, si on estime le coût de séquençage d'un génome humain. Le premier séquençage d'un génome humain, ça a coûté plus de 3 milliards de dollars, une collaboration internationale et 12 ans de travail. En 2001 ou 2002, on estimait que séquencer un génome humain, et ça a été le cas de Craig Venter, ne coûtait plus que 100 millions de dollars. Il a eu donc son génome séquencé par sa boîte pour 100 millions de dollars. Et puis... voyez là, à partir de 2007, un effondrement. Et on est arrivé maintenant à cette limite d'environ 1000 dollars pour le séquençage d'un génome humain en 24 heures, ceci hors interprétation quand même. Parce que ce qui commence à coûter cher, c'est le stockage des données informatiques, d'une part, parce que la croissance des données de séquençage est beaucoup plus grande que les progrès des mémoires informatiques, et donc ça pose des problèmes de stockage, de transfert de données, et puis d'interprétation. Alors, ça c'est le séquençage du génome complet, mais une technique en tout cas qui, du point de vue des applications à la génétique médicale, a une extrême importance, c'est celle qui permet de séquencer uniquement la partie codante, les 1,5 à 2% du génome qui code pour des protéines essentiellement, et pour lesquelles il y a le plus de mutations directement responsables de maladies monogéniques, ou en tout cas des mutations qu'on est capable d'interpréter. Parce que quand elles sont dans des parties non codantes, le problème de l'interprétation est extrêmement difficile. Donc finalement, en 20 ans, le coût de séquençage d'un génome humain a diminué d'un facteur de 3 millions, ce qui est absolument, je dirais, incroyable. Comme je dis souvent, par contre, quand vous parlez au directeur d'hôpitaux et que vous lui dites « puisque le coût du séquençage a énormément diminué, il faut augmenter le budget des laboratoires de génétique pour qu'ils puissent séquencer plus », ils ne comprennent pas toujours, mais effectivement, ceci, c'est parce que maintenant, on peut faire des choses qu'on ne rêvait pas de pouvoir faire. Le diagnostic, par exemple, génétique du retard mental, c'était quelque chose, à part quelques maladies particulières, comme le syndrome X fragile, qu'on ne rêvait pas de pouvoir faire. Maintenant, c'est à portée de main, donc c'est quelque chose d'important. Alors, aussi du point de vue de l'évolution, ça a été extraordinaire. Dans ma leçon inaugurale, je disais, donc en 2004, on dispose à l'heure actuelle des séquences presque complètes pour plusieurs génomes de vertébrés, la souris et très récemment le rat, trois espèces de poissons, d'autres projets sont initiés. Ça, c'est une partie de la liste qui montre les génomes complètement séquencés, des primates, des carnivores, etc. Et puis alors, peut-être un hommage à Darwin, énormément de génomes d'oiseaux qui ont été séquencés. Donc là, c'est à peu près chaque branche de l'arbre de vie est maintenant caractérisée par des génomes séquencés, et ça apporte des informations absolument passionnantes. Alors, ça, c'est l'évolution distante. Et puis, grâce notamment à Svante Paabo, qui a mis au point d'une manière extrêmement rigoureuse les techniques à la fois, j'allais dire, biochimiques, mais aussi d'analyse informatique, qui permettent de séquencer de l'ADN ancien, qui est quand même très dégradé, quand il n'est pas aussi, d'ailleurs, très contaminé par des bactéries, ceux qui ont touché, etc., qui a mis au point le séquençage d'ADN ancien et a pu ainsi, il y a déjà quelques années, séquencer complètement le génome de plusieurs individus néandertaliens venant dans diverses grottes. Et en séquençant une phalange, donc il arrivait à voir le génome de plusieurs individus néandertaliens, montrait quand même qu'il y avait eu, ce qu'on ne savait pas, des échanges génétiques entre les précurseurs des humains modernes ou des humains modernes et Néandertal, et que nous avons tous, semble-t-il, environ 3% de variants du génome qui nous viennent de Néandertal. Mais alors, à partir de cette seule phalange, il a pu identifier une branche nouvelle qui s'appelle les Denisovans, du nom de la grotte Denisova en Sibérie, d'où a été prise cette phalange. Et là aussi, on s'aperçoit que les Denisoviens ont contribué notamment au génome de populations dans le Pacifique de manière tout à fait significative. Alors, ceci dit, la limite de la stabilité de l'ADN fait qu'on ne dépassera, semble-t-il, pas 50 000 ans, donc on n'arrivera pas à séquencer les dinosaures. Voilà. Alors, d'autres méthodologies, là c'est quelque chose que souvent j'essaye de dire quand je fais des conférences vers le grand public, que des organismes qui paraissent très éloignés des préoccupations médicales peuvent conduire à des grandes découvertes biologiques et aussi à des applications médicales qu'on n'avait absolument pas imaginées. Alors là, j'irai très vite parce que pour le moment, c'est peut-être en amont de la génétique des maladies, mais c'est en plein, en tout cas, dans les neurosciences fondamentales. C'est la découverte chez des algues vertes et aussi des bactéries, des archébactéries, de canaux ioniques sensibles à la lumière, qu'on appelle des channel rhodopsines, puisqu'ils sont équivalents aux récepteurs pour la lumière dans notre rétine. Et en bricolant donc ces gènes, en les insérant dans des cellules, puis dans des neurones, etc., ceci a permis le développement de l'optogénétique depuis environ 2007, notamment Karl Desroth, mais aussi des chercheurs allemands, et qui permet maintenant d'étudier avec une très grande précision les réseaux neuronaux par rapport aussi à divers comportements, diverses réponses neurophysiologiques. Des applications qui sont maintenant largement répandues dans les laboratoires de neurosciences fondamentales. Et puis, nous avons entendu dans la leçon inaugurale de José Sahel le début, je dirais, de recherches qui montrent qu'on peut réactiver la sensibilité à la lumière de photorécepteurs rétiniens. Ceci a été fait sur un modèle souris de rétinite pigmentaire, et donc peut-être un espoir, mais il reste sans doute beaucoup à faire, pour utiliser l'optogénétique pour restaurer une forme de sensibilité à la lumière et de vision chez des personnes qui en ont perdu. Et puis, ce dont on parle partout, évidemment, c'est CRISPR, pour Clustered Regularly Interspersed et puis Repeat, enfin bon, Spaced Interspaced Palindromic Repeat. Voilà, à chaque fois, il faut que je réfléchisse pour savoir qu'est-ce que veut dire CRISPR. Et ça, c'est aussi quelque chose d'étonnant. Au départ, une curiosité en bactériologie, des répétitions un peu bizarres, particulières. Des chercheurs complètement hors des grands centres américains de la biologie qui publient dans des revues spécialisées de bactériologie. La première publication, en 2000, c'est une micro-correspondance de deux pages dans un par un microbiologiste espagnol d'Alicante. Et puis, donc, les microbiologistes, certains microbiologistes commencent à s'intéresser à ça. Et alors, venant d'un endroit tout à fait inattendu, c'est deux Français, un qui travaille en France, l'autre, donc ça c'est Philippe Horvath et Rodolphe Barangou qui travaillent aux États-Unis, travaillaient tous les deux pour une entreprise qui s'appelle Danisco, danoise à l'époque, qui produit des ferments lactiques pour faire des yaourts et pour l'industrie fromagère. Et en s'intéressant au problème de la sensibilité ou de la résistance de bactéries à des virus de type bactériophage, etc., ils ont découvert que CRISPR était en fait un système d'immunité adaptative chez les bactéries. Et donc une publication dans Science en 2007, et vraiment on peut voir, la bibliométrie est évidente, que c'est à partir de ce moment-là, à partir de cet article, que tout d'un coup, CRISPR est devenu un objet d'intérêt de beaucoup plus d'équipes dans le monde, y compris aux États-Unis, y compris, etc. Et ceci a conduit donc des yaourts et de ces travaux encore microbiologiques à l'intérêt par une microbiologiste, Emmanuelle Charpentier, pour comprendre les mécanismes, qui a été rejointe par une biologiste structuraliste moléculaire, Jennifer Doudna. Et puis cet article dans Nature en 2012 qui montre que au moins un des systèmes CRISPR est relativement simple, peut être encore simplifié, et que ceci devient un système programmable qui permet en fait de modifier de manière ciblée n'importe quel génome. Et donc dès début 2013, et notamment avec les travaux de Feng Zhen qui met au point les outils pour faire de l'édition de génome plus facilement, ça devient CRISPR-Cas, la folie CRISPR qui s'envole, et avec des applications, thérapie de maladies génétiques, il y a des applications qui sont en préparation, du sida également, mais des choses plus, par exemple le contrôle des anopheles vecteurs du paludisme, mais qui posent des problèmes puisqu'on va intervenir dans l'environnement réel, donc la lutte contre les espèces animales ou végétales invasives, et puis vers l'homme augmenté, je n'en parlerai pas, mais disons simplement pour dire que ce que par exemple quelqu'un comme M. Philippe Alexandre raconte quand il dit que grâce à CRISPR, on va augmenter le QI des personnes par 20 ou 40, c'est évidemment de la nerie. Et puis, cette dispute très française, est-ce que les organismes modifiés par CRISPR sont des OGM ou pas ? Les Suédois ont déjà dit que ça n'était pas des OGM, mais en France, apparemment, ça fait beaucoup de problèmes. Alors, une autre application, donc, je dirais, à la fois de cette technologie des SNP array d'un programme qui s'appelle AppMap, qui est d'une certaine manière issu des travaux de Jean Dausset et des gens autour de Jean Dausset au Centre d'études du polymorphisme humain, qui est le programme AppMap, qui visait à, je dirais, cartographier la variabilité du génome dans différentes populations humaines. Et ça a permis de faire des choses que je trouve très, très fascinantes. J'y avais consacré plusieurs heures de cours sur la détection des traces de sélection positive darwinienne au niveau du génome humain, c'est-à-dire des variations qui ont été sélectionnées parce qu'elles donnaient un avantage sélectif par rapport à un environnement particulier, par rapport à des maladies particulières. Alors, c'était déjà bien connu dans les années 50-60 pour des maladies touchant le globule rouge comme les hémoglobinopathies, le déficit en G6PD, mais le projet AppMap a permis les puces SNP, de les rechercher de manière systématiquement au niveau de tout le génome. Par exemple, les travaux de Luis Quintana Murci montrant que les gènes de défense immunitaire et notamment d'immunité innée ont fait l'objet effectivement de pressions de sélection positive dans les populations, sans doute pour permettre de mieux lutter contre les pathogènes qui, eux, modifient leur génome beaucoup plus rapidement que nous. Mais avec le prix peut-être à payer de l'émergence, parce que c'est les mêmes gènes, de maladies, par exemple, auto-immunes. Et je donnerai un exemple, parce que je trouve qu'il est très beau et très parlant, sur les gènes de pigmentation de la peau, et je ne parlerai pas de la tolérance en lactose, bien que ça soit l'influence, je dirais, de l'agriculture pastorale sur l'évolution du génome humain, et je pense tout à fait intéressante. Alors, à propos de la pigmentation, c'était en décembre, je crois, 2005, couverture de la revue Science qui montrait un bocal à poisson tenu par une main blanche et une main noire, et deux poissons qui diffèrent, eux aussi, par leur pigmentation. En fait, c'est des chercheurs qui s'étaient intéressés à analyser la cause d'un mutant classique de zébrafiche, d'un mutant de pigmentation qui existait depuis très longtemps, qui n'intéressait personne parce qu'il n'avait pas d'intérêt médical. Et ils se sont dit quand même, ça serait utile de savoir ce que c'est. Ils séquencent, ils trouvent que c'est un gène qui ressemble à un échangeur de cations, d'accord. Et en regardant dans quelle région il y a l'homologue humain de ce gène, qui est très conservé dans l'évolution, ils s'aperçoivent, et ça c'est les diagrammes HapMap que je ne vais pas avoir le temps d'expliquer, mais qui donnent une idée au niveau d'une population européenne, africaine, ou par exemple chinois et japonais ici, sur 160 génomes à chaque fois, de la complexité, de la variabilité de cette région dans la population. Et là, quelque chose d'absolument étonnant, c'est la région du génome où il y a une quasi-absence de variation sur plus de 200 000 nucléotides, 200 kilobases, chez les Européens. Vous voyez, les Européens, dans cette région, sont tous identiques. Ce qui, alors que, si vous regardez chez les Africains, une grande diversité, chez les Orientaux, aussi une assez grande diversité, peut-être un peu moins. Mais là, c'est tout à fait étonnant. Et en fait, ils trouvent la raison. Il y a dans ce gène qui est associé à un phénotype de pigmentation chez le poisson zèbre, il y a une mutation qui est présente chez les Européens, à un acide aminé qui est conservé tout au long de l'évolution depuis les poissons jusqu'aux chimpanzés et jusqu'à, je dirais, les deux tiers ou la moitié des populations humaines. Donc, le même acide aminé conservé, et puis tout d'un coup, il mute, et cette mutation donne un avantage sélectif par le fait qu'elle éclaircit la peau pour les Européens, probablement parce que enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse, c'est que quand on est dans un pays où il y a énormément de soleil, donc de rayons UV, il faut se protéger des UV responsables de cancer, donc une peau qui filtre les UV. Par contre, quand on est dans des régions où il n'y a pas beaucoup de soleil, on risque d'avoir un déficit en vitamine D, puisque les UV sont aussi impliqués dans la... dans le métabolisme de la vitamine D. Et donc, on risque le rachitisme. Et donc, pardon. Ah. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on peut conclure, c'est que tous les Européens descendent, pour cette région du génome, de la personne, d'une seule personne chez qui s'est passée cette mutation. Parce que c'est toujours le même environnement génétique, donc c'est une mutation qui s'est passée une fois et qui a donné un tel avantage sélectif qu'elle s'est répandue à environ 100% de la population européenne. Ce n'est pas le seul gène, parce que la pigmentation de la peau est un caractère polygénique, multigénique. Voilà un autre transporteur, SLC45A2, la même chose. Voyez, cette région, il n'y a aucune variation chez les Européens, alors qu'il y a une très très grande variation chez les Africains et chez les Orientaux. Donc c'est un exemple, il y a quelque chose d'un peu équivalent pour la lactase, tout à fait intéressant, qui est l'aspect de tolérance au lactose. Alors maintenant, la prédisposition génétique aux maladies communes. Alors quand j'avais fait ma leçon inaugurale, je disais que dans ce domaine, il y a eu quelques découvertes d'une grande importance, par exemple le gène ApoE, et son implication dans la maladie d'Alzheimer, un transporteur de cholestérol, mais une masse énorme de résultats controversés, beaucoup de discussions sur les meilleures stratégies qu'il faudrait utiliser. Pour beaucoup de pathologies, les résultats restent souvent décevants et contradictoires. C'était illustré par un article de Nature Genetics de Eric Lander en 2003. Et ça, ça a complètement changé grâce au Genome-Wide Association Study, c'est-à-dire quelque chose qui permet d'analyser non plus des gènes candidats et avec des problèmes de biais divers, de biais statistiques, mais d'analyser l'ensemble du génome sur un grand nombre de malades et de contrôles grâce à des techniques de SNP microarray. Alors, un premier succès en 2005, j'allais dire, ils ont eu beaucoup de chance parce que l'étude paraîtrait ridicule à l'heure actuelle. C'est une étude donc où on teste 110 000 polymorphismes sur 96 cas de dégénérescence maculaire liée à l'âge et 50 contrôles. C'est totalement ridicule par rapport à ce qui a commencé à se faire en 2007. Ils ont eu de la chance, c'est pour ça qu'ils ont publié dans Science, simplement parce que ils ont analysé une maladie pour laquelle il y avait en fait deux gènes, mais ils n'en ont trouvé qu'un, où il y a une contribution très forte à la prédisposition génétique. Donc malgré ce faible nombre de personnes, ils ont réussi à identifier effectivement un gène qui était tout à fait inattendu, un facteur du complément qui donc joue un rôle dans l'immunité, notamment innée, et personne n'attendait une implication de facteur du complément dans une maladie d'ailleurs dont beaucoup de gens ne pensaient même pas qu'elle était fortement génétique. Or, la dégénérescence maculaire liée à l'âge est une maladie qui a une forte composante complexe génétique et où le complément joue un très grand rôle. Donc ça, c'est 2005, mais je dirais l'article fondateur, un premier article de notre collègue Frogel de Lille sur le diabète de type 2, mais c'est surtout ce grand article paru dans Nature du Wellcome Trust Case Consortium. Il n'y a pas les auteurs dans le titre, les auteurs viennent après, comme souvent maintenant pour ce genre de papier, avec quelques centaines d'auteurs ayant contribué, puisqu'il s'agit d'une étude, donc avec 400 000 SNP testés le long du génome, pour 7 maladies, 2000 patients par maladie et 3000 contrôles partagés. Donc ça, c'est déjà, du point de vue de la taille de l'étude, c'est gigantesque pour l'époque. Mais surtout, c'est qu'ils ont mis au point des méthodes statistiques extrêmement rigoureuses pour permettre enfin de ne pas avoir ce problème des biais statistiques, des faux positifs qui avaient quand même été fait que pas mal d'études étaient pas très répliquées. Donc, et puis alors, ça introduit ce type de diagramme qu'on appelle le Manhattan plot, parce qu'on mesure par le test statistique du Ki2 la probabilité qu'à un endroit donné, il y ait une différence statistiquement significative entre la fréquence du polymorphisme chez les malades et chez les contrôles. Quand on est ici à 10, ça veut dire qu'on a une valeur du P de 10-10, ce qui évidemment est certainement significatif. Et donc on a ces gratte-ciel qui indiquent la présence de l'OSI. Donc pour la maladie de Crohn, beaucoup de gratte-ciel. Pour la maladie coronarienne, un seul gratte-ciel très élevé dans un désert génique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gène à cet endroit-là, et donc ça pose au problème, mais qu'est-ce que ça fait la variation-là sur les gènes qui sont peut-être à 100 kilobases. Et puis, de temps en temps, comme par exemple pour la maladie bipolaire, la dépression bipolaire, c'est le plat pays, c'est-à-dire qu'on ne trouve rien ou pas grand-chose. Et donc, à partir de 2007, donc de ce papier du Wellcome Trust, c'est une croissance absolument phénoménale, peut-être quelquefois exagérée, parce que d'abord, il y a certains journaux prestigieux comme Nature Genetics qui ne publiaient plus que des articles de GWAS. Et puis, de temps en temps, on se dit, au dixième article de GWAS sur le diabète de type 2, qui rajoute encore 5 ou 10 loci qu'on ne connaissait pas avant, on se demandait, est-ce qu'il faut absolument continuer cette course à des études de plus en plus grande, avec des problèmes d'ailleurs sur l'homogénéité, par exemple, des populations, des phénotypes, etc. Alors donc, grâce à ça, sur des tas de maladies, on commence à trouver des loci impliqués dans la prédisposition à ces maladies, et les techniques de ségrégation génétique permettaient d'estimer ce qu'on appelle l'héritabilité, c'est-à-dire ce qu'on pensait être la part génétique du risque de développer l'une ou l'autre de ces maladies. Et quand on regarde, après, ça c'est un papier de 2008, qui commente le problème qui arrive, c'est qu'on trouve plein de loci qui sont impliqués dans le risque de diverses maladies génétiques, et tous ces loci n'expliquent qu'une part, souvent très mineure, peut-être 10%, de l'estimation d'héritabilité. Donc ça pose un problème, et où a disparu cette héritabilité, le problème de la missing héritabilité. Donc est-ce que l'héritabilité avait été surestimée, la part de l'environnement sous-estimée, et alors il y a eu ce diagramme qui lui aussi, je dirais, est montré dans presque toutes les conférences sur la génétique des maladies communes, en regardant le type de variation qu'on peut avoir le long du génome entre les extrêmement rares, les rares, et puis les fréquentes, les extrêmement rares mais qui ont un effet très très fort, un effet causal pour les maladies monogéniques. Celles-là, on a les moyens de les détecter parce que on peut séquencer notamment maintenant les exomes, mais avant par les études de liaison, on arrive à identifier des variations très rares parce qu'elles étaient causales d'une maladie récessive ou dominante, etc. Donc, des variants très très rares à effet très fort. Et puis, les GWAS interrogent plutôt des variants qui sont communs dans la population, au moins 5% de fréquence, et qui ont en général des effets très faibles, qui n'ont pas d'intérêt diagnostique, bien que, évidemment, HLA et maladie, pour ces, par exemple les maladies auto-immunes, avec des effets forts, ApoE et Alzheimer, avec, ça multiplie quand même par 3 pour la DML, la dégénérescence maculaire liée à l'âge aussi, certains variants qui, bien qu'ils soient fréquents dans la population, multiplient le risque par 3 ou 4. Mais la plupart du temps, ça multiplie par simplement 1,10, c'est un effet très, très relativement peu sensible. Et donc les gens se sont par exemple posé la question, est-ce qu'il y a des variants rares avec effet intermédiaire? Et donc maintenant, il y a beaucoup de gens qui cherchent ça par du séquençage. Il y a quelques variants de ce type qui ont été trouvés. Par exemple, pour Alzheimer, un variant impliquant là aussi une réponse immunitaire. Donc c'est intéressant dans le gène TREM2. Mais en fait, la chasse, elle est très très peu productive et n'explique toujours pas cette missing heritability, malgré effectivement des moyens tout à fait considérables. Et alors, juste pour illustrer la différence pour une maladie psychiatrique bien connue, la schizophrénie, par rapport aux études premières, voilà un papier de Nature en 2014 qui identifie 108 régions du génome impliquées dans le risque de développer une schizophrénie. Et parmi ceux-là, celui qui a le résultat le plus significatif, une valeur de statistique de 10 puissance moins 27 à peu près, ce qui est absolument extraordinaire. Où se trouve cela? En plein milieu du locus HLA, cher à Jean Dossé, à tous ceux qui ont travaillé avec lui. C'est quand même, alors HLA en principe c'est l'auto-immunité, etc. C'est quand même très étonnant de se dire que le locus qui semble avoir, je dirais, le plus d'influence sur le risque de schizophrénie, en tout cas qui est le plus évident, se trouve dans la région HLA. Mais ceci dit, odds ratio de 1,20, ça veut dire que d'avoir un allèle à risque augmente le risque de schizophrénie de 20%, ce qui n'est quand même pas... on passe, disons, de 1% de risque à 1,2. Mais c'est intéressant du point de vue mécanisme physiopathologique. Et là, quand très très bel article en 2016... qui essaye d'identifier, mais c'est dans la région HLA, c'est quel gène qui est impliqué, et le résultat, de nouveau, comme pour la DMLA, un gène du système du complément, totalement inattendu. Est-ce que c'est parce qu'il y a un rôle de l'inflammation, ou une hypothèse dans ce papier, qu'en fait, ce facteur de complément C4 pourrait avoir joué un rôle dans la plasticité synaptique, et être impliqué dans le fonctionnement, effectivement, des connexions neuronales. Reste à voir. Prédire, prévenir et traiter des progrès trop lents, des déceptions, des problèmes éthiques. Donc, je différencie un petit peu les maladies à causalité génétique, c'est-à-dire les maladies monogéniques ou celles qui sont liées à des copy number variants, ces anomalies du dosage de segments du génome. Des maladies multifactorielles où vous avez interaction entre de multiples variants génétiques et puis l'environnement, les facteurs d'environnement. Alors, application donc pour ces maladies à fortement, je dirais, causalité génétique, diagnostic, traitement, prédiction, prévention. Alors, au point de vue du diagnostic, l'utilité est absolument évidente. Et c'est énormément développé, avec quand même quelques petits problèmes, notamment en France, je dirais, mais dans d'autres pays aussi. C'est qui va payer, quelle accessibilité pour les patients et les familles, Donc ça, c'est un problème financier. Mais il y a d'autres problèmes qui sont des problèmes de connaissance. C'est l'interprétation des variants qui est souvent probabiliste. Voilà, on trouve une mutation qui change un acide aminé en un autre dans un gène qui est en général associé à une maladie génétique. Mais est-ce que ce variant-là, chez cette personne-là, est responsable de la maladie ? Et l'interprétation, on dit c'est probablement pathogénique, c'est probablement pas, dans certains on est sûr. Et puis on a les VUS, Variant of Unknown Significance, ce qui veut dire qu'en fait on n'est pas capable de savoir si ça a un effet ou pas. Ça c'est un problème. Et donc pour résoudre ce problème dans l'avenir, je pense d'une part on a besoin de bases de données internationales, ça commence à se faire, mais je crois qu'il faudrait passer beaucoup plus fortement. Avec tous ces variants qui ont été détectés chez les patients et des données cliniques pour petit à petit avoir la connaissance de ce qui est vraiment pathogénique, de ce qui l'est moins et de ce qui ne l'est pas du tout. Et puis surtout plus de connaissances sur les protéines cibles, leur structure, leur fonction biologique. Et puis alors il reste quelque chose d'énorme parce que les variants qui sont dans la partie codante, 2% du génome, ça n'est que 2% des variants qu'on peut trouver si on fait le génome entier. Il y a quand même, dans le génome entier, des variants non codants qui ont un effet tout à fait important, mais ils sont extrêmement difficiles à interpréter, à détecter. Il y a un exemple que je trouve très, très joli, mais je n'aurai pas le temps, sur un syndrome rare qui s'appelle TAR, pour thrombocytopenia absens radius, c'est-à-dire une thrombocytopénie et absence du radius, quelque chose de tout à fait particulier, où ont été impliqués des variants non codants de régulation qui ont une fréquence de 1 à 2% dans la population et que donc on aurait pu dire qu'ils sont non pathogènes. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, une chose qui m'intéresse particulièrement, notamment par rapport au retard mental, déficience intellectuelle maintenant on dit, qui est quelque chose dont mon laboratoire s'occupe depuis très longtemps, puisque maintenant on en est à peu près à 500 ou plus de 500 gènes différents qui sont impliqués lorsqu'ils sont mutés dans des formes de retard mental avec ou sans épilepsie, avec ou sans autisme, etc. Que l'on peut maintenant, effectivement, par le séquençage à haut débit, identifier les mutations et faire un diagnostic pour les patients. Et évidemment, les familles, quand on leur dit, ben voilà, pour un gène que Thomas connaît bien, on leur dit, ben voilà, votre enfant ne parle pas, il a une mutation dans le gène SHANK3. La question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de cet enfant? Est-ce que ça va s'améliorer? Ça va empirer? Est-ce qu'il va y avoir autre chose, etc.? Et ça, c'est pas juste pour ce gène, c'est pour 500 gènes dont certains sont présents chez un petit nombre d'enfants, en tout cas, qui ont été diagnostiqués. Donc, comment décrire pour chaque gène, il s'agit de 500 maladies, finalement, les caractéristiques cliniques, les comorbidités, la sévérité, l'évolution. Les familles sont aussi souvent désireuses d'établir des contacts avec d'autres familles touchées par le même problème génétique. Et puis, il ne va pas y avoir de médicaments spécifiques pour la plupart de ces maladies, mais des médicaments symptomatiques. Est-ce qu'il n'y a pas de temps en temps des interactions entre le médicament symptomatique qu'on va donner et l'anomalie génétique qui touche un signal biologique ? Donc comment est-ce qu'on peut avoir ça ? Et je donnerai très peut-être rapidement un exemple de cette difficulté. Oula, je suis déjà à 1h30. Bon, oui. C'est cette région 16P11.2 de 600 KB sur le chromosome 16, où on peut avoir des délétions ou des duplications. Dans des journaux très prestigieux, New England Journal of Medicine ou Nature Genetics, la délétion est associée à de l'autisme, la duplication à la schizophrénie, mais aussi à l'autisme. Donc ceci montre d'ailleurs que la neurologie psychiatrique maintenant devient assez flou par rapport en tout cas aux problèmes génétiques, puisque la même cause génétique peut donner des diagnostics qui sont quand même très différent entre schizophrénie, autisme ou déficience intellectuelle. Et puis, il a fallu plus de 2 ans pour s'apercevoir que la délétion, le phénotype le plus évident et que tout le monde pouvait voir même en se promenant dans la rue, mais encore fallait-il voir plusieurs patients, c'est une obésité qui commence vers l'âge de 7 ans. De la même chose pour la duplication, article de Nature en 2011, quand on a une délétion, on a une obésité, quand on a une duplication, très souvent, on a un problème comportemental d'alimentation et un sous-poids pathologique. Et quand on interroge les familles, ce qui leur pose le plus problème, ce n'est pas les anomalies comportementales diverses que peuvent avoir les gens qui ont la duplication, c'est le fait qu'on n'arrive pas à les faire manger. Des gosses qu'on n'arrive absolument pas à faire manger. Il a fallu réunir 180 auteurs pour étudier 100 patients, 2 auteurs par patient, venant de 100 centres académiques différents, pour arriver à réunir suffisamment de patients pour se rendre compte de ce problème. Parce que individuellement, chaque médecin voyait un patient qui avait divers problèmes de comportement, et peut-être dans certains cas, on disait, bah oui, il ne mange pas bien, mais ça, il ne faisait pas trop attention, il est un peu... Voilà. Donc, ça montre cette extrême difficulté. Une autre illustration pour une maladie qui est extrêmement connue, où il y a des... je dirais des milliers de publications, qui s'appellent le syndrome de Prader-Willi, parce que c'est un des exemples de mécanismes où l'empreinte génomique qui indique qu'il y a des régions du génome qui ne sont pas équivalentes selon qu'on les hérite du père ou de la mère, elles ne fonctionnent pas pareil. Donc Prader-Willi est une de ces maladies, donc énormément d'articles sur Prader-Willi et sur la biologie moléculaire et mécanismes de Prader-Willi. En France, maintenant, les patients peuvent porter une carte d'urgence où il est dit « contre-indication formelle aux benzodiazépines et à tout autre médicament dépresseur respiratoire ». Alors on sait qu'il y a des problèmes de dépression respiratoire possibles chez les patients de Prader-Willi, mais il n'y a aucun article, pas un seul, dans toute la littérature médicale indiquant qu'il y a un problème avec les benzodiazépines et Prader-Willi. Pourquoi ? Parce que c'est des patients qui ne sont plus dans un cercle, je dirais, médical académique, ils sont dans des ateliers protégés, etc. Ils ont tendance à faire des épisodes psychotiques ou de grande colère. Pour les calmer, il est arrivé qu'on leur donne des benzodiazépines, et semble-t-il, il y a eu des épisodes de risque vital, enfin des gens qui sont morts, mais comme on ne savait même pas qu'ils avaient Prader-Willi, etc., sauf les familles savent ça. Mais il n'y a aucun article dans publication de type académique. Et donc, ce type d'observation a généré le projet qui va m'occuper dans les... qui commence à m'occuper et qui va m'occuper dans les années à venir, c'est de se dire que pour savoir finalement quels sont les phénotypes liés à ces 500 maladies différentes, ou plus de 500 associées au retard mental ou à l'autisme, etc., eh bien, ça n'est pas du côté des personnels académiques, des médecins, généticiens ou même neuropédiatres qui voient souvent les patients un tout petit nombre de fois, ou même seulement une fois, mais les parents qui, eux, connaissent évidemment bien l'enfant atteint ou l'adulte atteint. Et donc, c'est un projet qui a commencé de base de données participatives sur Internet avec un questionnaire multilingue sur les aspects médicaux vraiment significatifs de comportement, de qualité de vie, d'effets adverses de médicaments. Et on espère avec ça, ça commence relativement bien. Et c'est un projet où il n'y a pas de laboratoire, où il y a un site Internet, où il y a une page Facebook, où il y a des documents de communication, et on espère, on commence à voir des choses qui nous paraissent intéressantes. Alors, je vais aller, parce que j'ai déjà pris du retard, et j'abuse de votre patience, sur... ça va 40, oui. Voilà. Sur les... quelle heure est-il ? Ah oui, non. Sur les maladies communes, qu'est-ce qu'on peut faire prédire, etc. Et tout le monde parle, n'est-ce pas, de la prédiction par le génome, la médecine prédictive, médecine préventive, etc. Eh bien, il faut dire que, malgré toutes les connaissances accumulées, il n'y a pour le moment pas énormément d'applications réelles à la prédiction et la prévention, même pour des maladies pour lesquelles il y a des variants qui ont des effets assez forts, certainement moins, par exemple, pour le diabète de type 2, où on connaît plus de 60 ou 80 variants différents, mais l'aspect prédictif est extrêmement, n'a aucune application, je dirais, médicale pour le moment. Alors, est-ce qu'il y aura des choses? Alors, les généticiens médicaux américains ont proposé 56 gènes dit actionnable, qui actionnable, ça veut dire que si on a une mutation dans ces gènes, on a un risque de maladie pour lesquels on peut faire quelque chose, où il y a une prévention médicale ou un traitement précoce, et donc c'est intéressant de savoir à l'avance. Et donc là, on pourrait se dire qu'effectivement, il y a un intérêt de savoir ça. Et puis on peut se demander, par exemple, pour des maladies communes multifactorielles, est-ce qu'il y a un intérêt à dépister les 10 ou 25% de personnes les plus à risque pour leur conseiller une surveillance accrue si ça permet effectivement une meilleure prise en charge, mais à condition de ne pas diminuer la surveillance sur ceux qui ont le risque normal, parce que la majorité des gens qui deviennent malades pour ces maladies, c'est des gens qui n'ont pas un risque particulier. Donc c'est quelque chose de... Et alors, je voulais juste donner des exemples, je vais essayer d'aller vite, d'applications qui paraissaient évidentes, parce qu'il y avait des connaissances très solides sur des aspects, alors dans ce cas-là, c'est plutôt de pharmacogénétique, dans, par exemple, la pharmacogénétique d'anticoagulants, où il s'agit de médicaments qui ont une fenêtre thérapeutique très étroite et où il faut donner suffisamment, mais pas trop, parce que sinon, ou ça marche pas, ou ça fait des catastrophes, et où on connaît effectivement deux gènes qui sont impliqués de manière majeure dans la réponse aux antivitamines K. Donc on se dit, si on connaît ces gènes, ça va permettre de mieux doser, de mieux appliquer ces médicaments. Ça paraît évident. L'autre, c'est le facteur 5 de coagulation, où il y a un variant dit Leiden, qui a un rôle très important dans le risque de thrombose et en interaction avec la fibule. Alors, ce qui paraît évident n'est pas toujours. Pour ce qui concerne la réponse aux anticoagulants, trois articles le même jour dans le New England Journal of Medicine, des études cliniques très poussées, des grands essais cliniques. Deux concluent que d'avoir le génotype ou pas au niveau de ces deux gènes n'aide pas à arriver à la bonne dose plus rapidement. Le troisième dit, si on a une différence significative, mais avec un effet modeste. Donc, ce qui semblait évident, tiens, ça va être utile de pouvoir savoir quels sont les gens qui sont plus sensibles ou moins sensibles à ces anticoagulants, et on va pouvoir appliquer ça pour une meilleure thérapeutique, ça n'a pas l'air si évident que ça. L'autre, c'est quelque chose dont on a d'ailleurs beaucoup parlé dans les médias, mais sans parler de l'aspect génétique, c'est le facteur 5 Leiden, qui est un variant d'un facteur de coagulation qui est présent dans 15 ou 20% de la population européenne et qui prédispose aux événements, aux thromboses veineuses. Et là, ceci indique, si une jeune femme ne prend pas de contraceptifs oraux et n'a pas le facteur 5 Leiden, son risque de thrombose veineuse est très peu important. Si elle prend un contraceptif oral, la pilule, ça augmente d'un facteur de 4. Et vous vous rappelez, on a beaucoup parlé pilule de 4e génération et des risques d'AVC de thrombose veineuse. Si elle ne prend pas de contraceptif et qu'elle a le facteur 5 Leiden, là aussi, ça augmente par un facteur de 5 ou 6. Et puis, si elle a les deux à la fois, vous voyez que le risque augmente énormément. Il y a une potentialisation si on prend à la fois des contraceptifs et si on a le facteur 5 Leiden. Donc on peut se dire, ah ben voilà, ça c'est vraiment très important. Sauf que même ce facteur de 30 multiplicatif fait que ça reste quand même encore relativement rare. C'est le nombre d'événements, environ 28 événements par 10 000 personnes par an. Et donc qu'est-ce qu'on en fait ? Bien, le test du facteur 5 Leiden est le test génétique qui est le plus pratiquée en France. 100 000 tests par an. Et quand vous interrogez les spécialistes de la coagulation, à quoi ça sert? La réponse, à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de bonne pratique, de protocole disant que, il faut, si, est-ce que, par exemple, si on donne la pilule à une jeune femme, il faut tester le facteur 5 Leiden. Ah oui, mais ça a un coût de tester le facteur 5 Leiden. Donc, est-ce que le coût par rapport à ce qu'on va détecter, etc. Si elle avait le facteur 5 Leiden, est-ce qu'il faut lui interdire la pilule, lui conseiller une autre pilule, etc. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de guidelines. Donc, c'est un test qui est pratiqué. Simplement, il suffit de, tiens, on va le demander, mais on n'en fait rien. Donc, je voulais insister. Alors, deux questions quand même. Parce que ça paraît quand même, par exemple, l'histoire des antivitamines K, un effet fort de génétique sur la sensibilité, et ça a l'air de servir à rien dans des essais cliniques. Sauf que ces essais cliniques, ils sont faits dans des centres ultra spécialisés, hein, des gens qui publient dans le NEJM, donc des gens ultra compétents, des stars dans le domaine de la coagulation. Est-ce que ça représente la vraie vie de la médecine générale? Et on pourrait se demander, ce qui ne sert peut-être pas quand on a les meilleurs médecins qui appliquent les protocoles les plus rigoureux, est-ce que ça pourrait servir dans la vie de tous les jours? Mais on n'en a pas la réponse. Et puis, cette nécessité d'avoir des protocoles validés de bonnes pratiques si on veut utiliser ces données génétiques. Autrement, c'est tout à fait intéressant pour comprendre les mécanismes de maladie, mais avoir des applications, il faut avoir... une chose qui montre qu'il faut être modeste. En 1993, novembre 1993, le NIH annonce, un résultat extrêmement important sur la génétique de la maladie d'Alzheimer, un variant fréquent dans la population, 20% de la population porteur de cette allèle APOE4, qui a un effet très important sur le risque de développer la maladie d'Alzheimer. Et ils en concluent trouver un traitement, une cure pour la maladie d'Alzheimer est une grande priorité. Et ces travaux, on est en 93, vont permettre d'avoir des méthodes diagnostiques efficaces de la maladie d'Alzheimer, des traitements et peut-être une cure de cette maladie extrêmement grave. Eh bien, 1993, nous sommes 2016. Il n'y a toujours pas d'application réelle du point de vue diagnostique de APOE. C'est extrêmement utile pour tous les essais cliniques, c'est important, etc. Et probablement maintenant, il y a des essais cliniques qui sont faits chez des gens qui sont particulièrement sensibles à la maladie d'Alzheimer pour essayer de voir est-ce qu'il y a des thérapeutiques préventives qui pourraient marcher. Donc, application en recherche clinique, très importante. Application sur la maladie, sur la compréhension de la maladie d'Alzheimer, très importante. Mais application diagnostique réelle, pour le moment, non, 23 ans après. Application sur les traitements, il n'y a toujours pas de traitement, et je crois même pas en essais cliniques, qui sont basés sur la connaissance de cet effet d'un transporteur du cholestérol dans la maladie d'Alzheimer. Donc je crois qu'il faut rester, modeste. Alors de temps en temps, il y a des choses où au contraire ça va beaucoup plus rapidement. Toujours le cholestérol. En 2003, une équipe française... Catherine Boileau, dans deux familles qui avaient hypercholestérolémie et qui n'avaient pas le gène muté le plus fréquent, trouve une mutation dans un gène que personne ne connaissait, auquel personne ne s'intéressait, qui s'appelle PCSK9, qui code pour une protéase. Mais il montre qu'effectivement, des faux sens, changement d'un acide aminé par un autre dans ce gène, est lié à une hypercholestérolémie. On passe au Texas, où Helen Hobbs s'intéresse beaucoup à la génétique des maladies cardiovasculaires. Elle séquence toute une série de cohortes qui ont eu ou pas une maladie coronarienne, qui ont ou pas une hypercholestérolémie, et elle s'aperçoit que, et notamment c'est dans la population noire pour des raisons de génétique de population, que des variants perte de fonction, où on perd la fonction de PCSK9, ou au contraire un effet de diminution du cholestérol de manière importante et surtout de diminution du risque de maladie coronarienne. Et d'ailleurs, s'il y a des amis du professeur Even qui sont là, c'est la meilleure démonstration que le taux de cholestérol est effectivement lié au risque coronarien, mais de manière absolument indiscutable. Donc, travaux d'Hélène Hobbs en 2006, des travaux précliniques sur les souris et même les primates en 2008, plusieurs compagnies pharmaceutiques sautent là-dessus et développent des anticorps monoclonaux d'application thérapeutique, approuvés par la FDA en 2015. Seul problème pour une maladie qui n'est pas une maladie rare, c'est un traitement très coûteux, donc pour le moment qui sera réservé, et encore, aux gens qui sont insensibles aux statines ou qui ont des effets adverses des statines. Autre exemple, la mucoviscidose, gène trouvé en 1989, et ça n'est que depuis quelques années qu'il y a un médicament qui est vraiment issu des connaissances sur ce gène et sur le fonctionnement de ce gène, l'ivacaftor, mais qui est ciblé simplement sur des patients qui ont une mutation particulière sur 5% des patients avec mucoviscidose. Coût du traitement, au départ, c'était $300,000 par an. Apparemment, ça a baissé à 150 000. Et ceci, c'est pour 5%. Pour la mutation la plus fréquente, la même compagnie a développé un médicament, mais qui n'a qu'un effet marginal, qui semble être maintenant accepté par le FDA, mais qui va aussi coûter très cher, mais pour un effet beaucoup moins intéressant. Donc, vous voyez. Et puis, une liste pour la myopathie de Duchenne, gène identifié en 86, 20 ans de recherche sur une stratégie dite d'exon skipping pour permettre de rétablir un gène partiellement fonctionnel à partir d'un gène qui n'est pas du tout fonctionnel. On n'a toujours pas cette stratégie sur le marché. L'X fragile, retard mental avec X fragile, gène identifié en 1991, 15 ans de recherche sur la signalisation glutamatergique et GABAergique avec des résultats qui étaient très intéressants. L'intérêt des grandes pharma, des grands essais cliniques, des premiers espoirs, et puis espoirs complètement déçus. Les grandes pharma ont arrêté ces essais cliniques. Huntington, je pense que là aussi, on n'a toujours pas de thérapie issue des connaissances sur la maladie qui soit efficace. Donc là, je passe, c'est simplement, voilà, récemment, New York Times, cette histoire où la FDA refuse de mettre sur le marché rapidement ce médicament d'exon skipping parce qu'ils trouvent que les études ne sont pas suffisamment convaincantes, avec tout un problème que j'avais illustré d'ailleurs dans un film que j'avais montré ici, sur à la fois la nécessité d'avoir des essais cliniques avec contrôle placebo, mais que pour des maladies extrêmement graves et où les parents peuvent avoir l'impression ou peuvent penser qu'il y a un médicament qui est efficace parce que certains essais cliniques non contrôlés, moins bien contrôlés, ont suggéré un effet clinique, ça devient quasiment impossible d'avoir des essais cliniques avec groupe contrôle parce que les parents ne vont pas vouloir que leur enfant soit dans le groupe contrôle. Voilà, donc je voulais... Oula. Bon, encore 10 minutes. L'X fragile, donc 91... Le gène est identifié. En 2002, des études sur la souris d'électrophysiologie montrent une hypersignalisation glutamatergique. C'est une voie de signalisation qui intéresse beaucoup les industries pharmaceutiques, qui est ce qu'on appelle druggable, et aussi pour le GABA. Et donc, intérêt des big pharma. Novartis commence un essai clinique. Les chercheurs, notamment français, qui sont impliqués dans cet essai clinique à Lyon, Vincent Desportes, n'ont absolument pas le droit de parler sur les résultats, ils ne savent d'ailleurs pas encore, et puis tout d'un coup, ça tombe dans le New York Times, des résultats tout à fait prometteurs, etc. Directeur de NIH Mental Health, qui dit que jamais il se serait attendu qu'on puisse avoir des choses intéressantes dans le retard mental. Ça, c'est 2010, dans le New York Times. Il faut attendre un an pour avoir le papier dans une revue prestigieuse, Science Translational Medicine, qui dit on n'a pas détecté d'effet significatif sur les primary outcome measures, sur ce qu'on avait proposé de mesurer dans cette maladie comme test d'efficacité, mais si on commence à regarder en post-hoc, on trouve quand même qu'il y a 7 patients sur les 30 qui ont l'air de répondre, donc ça justifie l'intérêt d'aller plus loin, de faire un plus grand essai clinique. La même chose pour un médicament GABAergique. On n'a pas trouvé de différence entre placebo et le médicament sur les primary endpoints, mais si on regarde d'autres tests, etc., ou des sous-tests, on a vraiment l'impression qu'ils peuvent améliorer la fonction sociale et comportementale des patients avec l'X fragile. Formidable. Sauf que, et là d'ailleurs le Time qui dit le premier médicament qui pourrait améliorer les problèmes sociaux dans l'autisme, c'est plus que dans l'X fragile, c'est dans l'autisme en général. 2012, 2013, l'essai clinique pour le GABAergique est arrêté parce qu'il n'y a pas d'effet. Bien que certains parents disent « Ah mais oui, mais mon gamin, il allait mieux. » 2014, Roche Novartis annonce l'arrêt des essais cliniques parce qu'ils disent des essais cliniques importants hein, sur plusieurs centaines de patients, adolescents, adultes, parce qu'ils ne trouvent pas d'effet significatif. Mais le problème, et notamment Vincent Desportes et ses collaborateurs se demandent, mais est-ce qu'on a utilisé les bons tests ? Et les tests comportementaux qui ont été utilisés sont extrêmement sensibles à l'effet placebo, ne sont pas des tests stables, et il faudrait développer des tests cognitifs plus objectifs. Donc je crois que ça, c'est une leçon. Si on veut pouvoir, pour ces maladies lentement dégénératives, etc., pouvoir tester des médicaments, il faut aussi peut-être repenser complètement la manière de faire les essais cliniques, d'avoir des tests qui répondent à la fois à une amélioration réelle médicale et pas à quelque chose qu'il est facile de mesurer. Donc c'est un gros problème. Je crois que je vais passer là parce que... Voilà, ah non, oui. Bon. Alors, juste dans... Oui ? Il me reste 20 minutes ? Ah bon, d'accord. Ah bon ? Ah oui, mais... Non, mais... J'avais un truc qui m'était que je parlais depuis 1h54, mais c'est probablement que ça avait été... Ah bon, bah... Ça va mieux. Ça va mieux. Ok, merci. Donc, l'ataxie de Friedreich... maladie à la fois neurologique et cardiaque. Les patients sont handicapés à cause de leur maladie neurologique, meurent à cause de leur maladie cardiaque. Quand j'avais fait ma leçon inaugurale, donc c'est un gène qu'on a identifié, Michel Koenig, dans mon laboratoire, en 1996, qui a attiré l'attention d'Arnold Munich du point de vue des mécanismes, à l'époque, des résultats venant d'essais non contrôlés placebo du groupe d'Arnold Munich, en 2002 par exemple, suggéraient qu'un antioxydant appelé l'idébénone a une action thérapeutique utile sur la cardiopathie chez la moitié des patients traités. Il semblait ne pas avoir d'effet sur la neurologie, mais en tout cas avoir des effets sur la cardiopathie. Donc moi j'étais très content parce que ça... Au moins pour un gène qu'on avait identifié, il y avait une application clinique traitement. C'était une première étude. En 2009, un article colligeant 11 études cliniques redit qu'il y a des arguments d'amélioration à la fois sur l'hypertrophie cardiaque et même sur certains symptômes neurologiques pour les patients avec Friedreich traités par l'idébénone. Nous sommes en 2009. En 2011, une étude placebo-contrôlée américaine, mais qui ne dure que 6 mois, c'est peut-être pas suffisant, sur 80 patients, il n'y a pas d'évidence statistique d'effet de l'idébénone. En 2012, une revue, des millions de dollars ont été dépensés par Public Private Industry Based Initiative pour la recherche thérapeutique sur l'ataxie du Friedreich. Malgré cet effort international très vigoureux, il n'y a pour le moment pas de thérapeutique avec un effet prouvé et c'est confirmé dans un article de Massimo Pandolfo, qui est un des grands spécialistes, que pour le moment, les essais randomisés et contrôlés n'ont pas donné d'arguments robustes d'efficacité pour aucune des molécules testées. Donc, ce n'est pas très, très encourageant. Alors, à l'IGBMC, il y a l'équipe tout à fait remarquable d'Hélène Puccio qui avait mis au point les modèles souris pour l'ataxie de Friedreich, qui a continué, et notamment fait des recherches précliniques sur le modèle souris, que je trouve très excitantes, montrant qu'on peut prévenir la cardiomyopathie et même la réverser pour une cardiopathie qui est déjà installée par thérapie génique, et des résultats non publiés, donc ça c'était publié dans Nature Medicine, des résultats non publiés montrent qu'il en est de même pour les troubles neurologiques. Et donc, il y a une start-up qui a été créée et ils espèrent pouvoir faire des essais cliniques en espérant que ça va marcher. La même chose pour une autre maladie sur laquelle on avait identifié le gène, qui est la myopathie myotubulaire, où là aussi, une maladie extrêmement grave qui souvent cause la mortalité d'enfants avant l'âge d'un an, une maladie musculaire. Et sur le modèle souris, mais surtout sur un modèle naturel de chien, Anna Buche-Bello, qui travaille maintenant au Généton, qui était avec moi dans le temps, a montré des effets absolument spectaculaires de la thérapie génique sur cette maladie très grave, avec des chiens qui mouraient au bout de quelques semaines et qui gambadent deux ans après la thérapie génique. Donc le chien, c'est déjà quand même mieux que la souris du point de vue taille, etc. Donc, là aussi, on espère, mais c'est une maladie très rare, ça pose des problèmes, peut-être d'avoir des succès. Alors, une chose dont on parle très peu, en France en tout cas, c'est que, bon, faire du traitement, il faut absolument continuer à essayer de développer, du moins de vue préclinique et clinique, des essais de traitement, en essayant de les faire le mieux possible, mais on ne peut pas promettre aux familles toutes ces maladies, on va pouvoir les traiter. Et donc, la question est, est-ce qu'il y a d'autres moyens de prévention ? Et il y a ce moyen de prévention qui n'est pas une victoire de la médecine, puisque ça consiste à supprimer le malade, mais à l'état fœtal, c'est le diagnostic prénatal. Alors, ceci est fait pour la trisomie 21 et d'autres anomalies chromosomiques, et il y a maintenant, grâce au séquençage à haut débit, cette explosion de dépistage prénatal non invasif avec test sur le sang maternel, mais c'est pas un diagnostic, c'est un dépistage qui est d'utilisation croissante dans beaucoup de pays, qui n'est pas encore remboursé en France par la Sécurité sociale, mais qui commence à être utilisé par les femmes qui vont payer pour ce test 500 euros. Mais ça, on en parle pas mal dans les journaux d'hiver. Et effectivement, ça pourrait conduire à une quasi-disparition de la trisomie 21, ce qui peut poser des problèmes par rapport à la tolérance au handicap, etc. C'est un problème éthique difficile. Mais ce que je voudrais parler, c'est les possibilités de dépistage préconceptionnel des couples à risque d'avoir des maladies sévères, pédiatriques, soit maladies récessives, où les deux parents sont porteurs d'une mutation mais non atteints, soit les maladies liées au chromosome X qui sont transmises par des femmes qui ne sont pas atteintes mais qui portent la mutation et qui peuvent avoir des garçons atteints. Et le séquençage à haut débit pourrait permettre maintenant, dans la population générale, de dépister les couples à risque d'avoir des enfants atteints de maladies récessives ou une bonne partie de ceux à risque d'avoir des maladies liées au chromosome X. C'était déjà possible, par exemple, pour la mucoviscidose, et ça se pratique assez couramment aux États-Unis. En France, le Comité consultatif national d'éthique a, à plusieurs reprises, émis des avis défavorables sur le diagnostic préconceptionnel de la mucoviscidose pour des raisons que je pourrais discuter au pot après. Alors, ceci dit, le dépistage conceptionnel dans la population générale, ça fait plus de 30 ans que ça se fait pour certaines maladies dans certains pays. Par exemple, dans les populations méditerranéennes du nord de la Méditerranée, sud de l'Italie, Sardaigne, Crète, Grèce, il y a des programmes qui ont commencé vers les années 75 de dépistage systématique des thalassémies, qui était un problème majeur. Et là, vous pouvez voir que il y avait à peu près 110 naissances de thalassémiques en Sardaigne. C'était une maladie extrêmement lourde. À l'époque, les enfants mouraient à l'âge de 10 ans quand ils avaient une thalassémie. Maintenant, les choses se sont améliorées. Mais donc, 110 naissances par an. Ce programme de dépistage au niveau de la population générale, mais avec une information sur la maladie, avec un accompagnement, disons, a conduit à la quasi-disparition. Vous voyez, il n'y avait plus que quelques cas par an en Sardaigne. À Chypre, il n'y en a plus du tout. Ou en Crète, je ne me rappelle plus, c'est l'un des deux. Il n'y a quasiment plus de naissances de thalassémiques, alors que dans les années 70, il n'y avait pas suffisamment de sang pour les transfusions des patients avec thalassémie dans ces pays. Chez les Juifs ashkénazes, au début, cette maladie de Tay-Sachs, maladie très neurologique, dramatique, qui conduit à la mort à l'âge de 2-3 ans des enfants atteints, un dépistage systématique dans cette population juive ashkénaze aux États-Unis, Canada et en Israël. Vous voyez, entre 69 et 98, 1,3 million de personnes testées, 50 000 porteurs sains identifiés, 3 000 grossesses suivies, 604 fœtus atteints, 583 IMG. Dans cette population, Tay-Sachs n'existe, pour ainsi dire, plus. Alors, donc, comme je disais, la révolution technologique du séquençage à très haut débit permet de développer ces diagnostics de manière plus systématique, et en plus, c'est un marché énorme. Donc, dès qu'on dit marché énorme, on dit « ah oui, mais ça va être la pression du marché, etc. » Mais est-ce que c'est parce que c'est un marché énorme qu'il faut évacuer le problème? Parce qu'effectivement, c'est 800 000 couples par an qui ont, qui prévoient d'avoir un enfant, donc marché énorme. Alors, est-ce que c'est une dérive eugénique inacceptable de faire ça non plus pour une maladie particulièrement fréquente, mais pour l'ensemble de maladies graves, récessives ou liées aux chromosomes X? Est-ce qu'il faut interdire ça? Ou est-ce que c'est acceptable dans certaines limites, c'est-à-dire pour certaines maladies particulièrement graves, mais pas pour d'autres? Et qui c'est qui va définir où se trouve la limite? Est-ce que ça devrait être pris en charge par l'État? Donc un coût initial certainement très important, ou par ceux qui peuvent payer, et on a le problème de la médecine à deux vitesses. Mais la question que je pose souvent, parce qu'en France, on accepte et on trouve parfaitement éthique que si dans une famille, il y a un enfant atteint de mucoviscidose, on va proposer aux parents de faire non seulement du diagnostic prénatal, mais on va dire aux sœurs ou aux frères de l'enfant atteint, vous êtes peut-être porteur de la mutation, 2 chances sur 3 qu'il soit porteur de la mutation, on va tester. Si vous êtes porteur de la mutation et que vous avez des projets d'enfant, on va tester votre conjoint. Et si votre conjoint est atteint, vous pourrez, est porteur de mutation, vous pourrez faire un diagnostic prénatal. Donc, en France, on estime qu'il est parfaitement éthique de prévenir la naissance d'un deuxième enfant atteint dans la famille même élargie où il y a eu déjà un premier enfant atteint. Mais on trouve que ça n'est pas éthique, c'est l'avis qu'il y a des problèmes, du Comité national d'éthique, de prévenir la naissance du premier enfant atteint. Je ne vois pas la différence éthique entre une prévention par le diagnostic prénatal du deuxième enfant ou du premier enfant. Et j'en reviens là, il y a peut-être des personnes qui étaient au Comité national d'éthique, je vais être peut-être un peu critique vis-à-vis de la dernier avis du Comité national d'éthique sur réflexion éthique sur l'évolution des tests génétiques liés au séquençage de l'ADN humain à très haut débit. Document de 83 pages. Alors, je ne vais pas vous lire ce document, rassurez-vous, mais grâce aux techniques informatiques de base, on peut regarder combien de fois certains mots sont présents dans un document de 83 pages. Dans ce document de 83 pages, il y a 116 fois le mot « risque », 20 fois le mot « discrimination », 7 fois le mot « danger ». C'est-à-dire, de manière systématique, on essaye de voir tous les dangers possibles et imaginables qui pourraient être liés à l'utilisation du séquençage à haut débit. Et je voudrais, notamment, par exemple, là, ça c'est le texte même, si on commence à utiliser le séquençage à haut débit, d'une analyse ciblée sur une maladie à une analyse ciblée sur l'individu en bonne santé, prescrite sans hypothèse diagnostique pour dépister un risque encouru par l'individu, on risque de sortir du cadre médical et d'aboutir à une situation où c'est la société qui impose une norme. Alors, ceci dit, si on réfléchit, c'est exactement la même chose pour la balance. La balance permet de prévoir des risques, si on est obèse, de maladies cardiovasculaires et de diabète. Et pour toutes les jeunes femmes qui suivent leur poids et essayent de diminuer de poids, et donc les anorexiques, la balance est quelque chose d'extrêmement dangereux. Il y en a beaucoup qui meurent. Donc, est-ce qu'il faut interdire l'usage de la balance ou le limiter strictement à une application médicale prescrite par le médecin? Et je proposerai en commentaire cette citation de Charles Péguy, « Le quantisme a les mains pures, mais il n'a pas de mains, et nous, nos mains calleuses, nos mains noueuses, nos mains pécheresses, nous avons quelquefois les mains pleines. » Et c'est peut-être cette préoccupation qu'on a trop en France, alors je suis un peu polémique, de dangers largement imaginaires, dans le domaine en tout cas de la santé, en créant des complexités administratives tatillonnes, dangers sanitaires des OGM, la CNIL qui quelquefois trouve des poux pour des études où on se demande vraiment quel serait le problème, surtout dans une période où tout le monde met sur Facebook ou sur Internet et où on voit d'après les leaks que de toute façon ce que vous racontez, si vraiment quelqu'un veut savoir ce que vous racontez, on peut se dire que quelqu'un qui clique plusieurs fois sur Google pour savoir qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour la maladie de Huntington, on peut supposer qu'il y a soit c'est quelqu'un qui travaille sur la maladie de Huntington, soit c'est quelqu'un qui a une personne dans sa famille qui a une maladie de Huntington. Et par contre, dans le même temps, on s'est aperçu qu'on s'est préoccupé trop peu ou trop tard de dangers réels, et on a tous les scandales sanitaires, amiante, distilbène, hormones de croissance, Mediator. Je vous laisse la réflexion. Voilà, ça c'est, j'arrive presque à la fin. Ça c'est juste pour indiquer que pendant ces 12 années, j'ai fait, souvent avec des collègues du Collège de France, une série de colloques sur les sujets, certains d'entre eux que j'ai abordés ici. Le dernier, où plusieurs des collègues du Collège de France, éditeurs de Christine Petit, Alain Fischer et Pierre Corvol m'ont fait l'amitié de venir à Strasbourg pour un colloque qui était, je pense, intéressant. Et puis, je tiens à faire les remerciements au Collège de France, à mes collègues biologistes avec qui j'ai eu des interactions très, très, très amicales et intéressantes, aux administrateurs, les quatre qui ont été administrateurs pendant ma période, l'administration du Collège de France, l'aide financière qu'il a fournie à mon équipe de recherche, et puis mes collaborateurs, il y en a plusieurs qui sont là, je les remercie de collaboration extrêmement fructueuse et agréable, mon maître Pierre Chambon, mes collègues généticiens, les associations de patients, très importantes, à la fois pour la recherche et puis pour comprendre ce que c'est les maladies génétiques, et ma famille, bien évidemment, et puis un postlude, parce que j'ai d'autres passions que la génétique. La génétique est une grande passion, mais j'ai aussi des passions artistiques. Alors j'ai essayé de les faire se rencontrer, et cette année, pour changer un peu mes cours, j'ai fait une série de cinq cours, dans quatre cas où j'ai projeté un film parlant d'une maladie génétique, où la maladie génétique a un rôle très important, faisant le cours après sur cette maladie génétique. Je pense que ça permettait d'aborder le fait que les maladies génétiques, c'est pas simplement des mécanismes moléculaires, cellulaires, que c'est aussi des personnes, des familles, et de voir par le cinéma peut-être ce que peut être l'impact, et avec des choses très intéressantes, par exemple dans Lorenzo sur l'adrénocholinergie, sur le problème des essais cliniques quand on a un médicament qui a l'air de corriger un biomarqueur qui est le marqueur diagnostique de la maladie. Et puis un aspect un peu personnel, puisque Peter Ustinov, qui joue le rôle du grand spécialiste de l'adrénocholinergie dans ce film, ressemble beaucoup en corpulence, en accent mitteleuropéen, au grand spécialiste qui était Hugo Moser, qui était co-auteur du papier dans lequel on a identifié le gène de l'adrénocholinergie. Et puis Michel Petrucciani, qui était un immense et très petit pianiste de jazz, et qui était atteint de cette forme très sévère d'ostéogenèse imparfaite. Et non seulement le cinéma, mais il y a eu une représentation théâtrale à l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, où quelqu'un qui fait du théâtre d'improvisation a écrit et interprété lui-même une pièce qu'il avait déjà présentée plusieurs fois à Strasbourg. C'est comme ça que je l'ai connu. Il se trouve que cet homme de théâtre a un enfant qui est atteint d'une maladie extrêmement grave, hépatique extrêmement grave, auquel on avait annoncé que très probablement il n'allait pas survivre. Puis finalement, une greffe de foie lui a permis il a maintenant 9 ans, d'aller très bien. Donc on a eu à la fois cette pièce et puis le grand spécialiste de la maladie, Emmanuel Jacquemin au Kremlin-Bicêtre, est venu faire un magnifique séminaire sur la maladie. Et puis maintenant, je voudrais évoquer la mémoire de Jean Dossé, mais d'une manière un peu décalée. Alors Jean Dossé, évidemment, professeur au Collège de France, de la chaire de médecine expérimentale, qui est décédé, en octobre 2009. Il y avait eu des journées qui lui ont été consacrées sur son œuvre scientifique et médicale. Mais je souhaite montrer un aspect moins connu, mais qui a eu énormément d'importance pour la place de la France dans les débuts du programme Génome Humain. Et ceci passe par cette très belle femme qui s'appelle Madame Hélène Anavy. Mais d'abord, Jean Dossé, notamment au début de sa carrière, était très amateur d'art et avait avec sa première femme une galerie d'art rue du Dragon, la Galerie du Dragon, où il a présenté des peintres extrêmement connus, dont je crois les première présentation parisienne de Jackson Pollock, etc. Donc c'était une galerie d'art très connue. Et Jean Dossé était lui-même collectionneur, et dans un catalogue de vente aux enchères, notamment de la collection du professeur Dossé, cette très belle, en fait, ce diptyque de Simon Antaille, qui est un peintre extrêmement connu, qui est décédé récemment. Et je trouve absolument étonnant cette peinture de 1950, qui ressemble tout à fait au diagramme de biologie structurale, et j'ai comparé ça avec la structure cristalline de HLA. Je trouve, donc ça c'est date de 1950, ça c'est de 2006, mais je trouvais que c'était très évocateur. Mais alors, Madame Anavy. Madame Anavy, qui était une riche collectionneuse qui avait fréquenté la Galerie du Dragon, apprenant par la télévision que quelqu'un, finalement, qu'elle avait connu dans le temps, finalement, c'était un grand professeur, il venait d'avoir le prix Nobel. Elle n'avait pas d'héritier, elle avait une grande collection. Elle a décidé de donner sa collection pour la recherche médicale du professeur Jean Dossé. Collection avec Victor Brunner, Jean Dubuffet, un Max Ernst qui, lui, a été donné par la fondation Jean Dossé au Centre Pompidou. Vous pouvez voir ce très beau Max Ernst. Alors pourquoi est-ce que, je me rappelle Daniel Cohen, à qui je disais ça, il se tourne vers Jean Dossé en disant « Mais pourquoi il a donné alors que ça pourrait être utilisé pour le laboratoire ?» Et Jean Dossé lui explique que pour avoir le droit de vendre le reste de la collection à Sotheby's à Londres et en tirer des prix, il fallait quand même donner quelques arguments pour avoir la permission d'exporter ses œuvres. Donc, voilà le catalogue de la vente à Sotheby's avec aussi un très bon Amsterdam de la vente d'Hélène Anavy, catalogue préfacé par Jean Dossé. Et l'argent de cette vente a permis d'initier le Centre d'études du polymorphisme humain, qui a joué un rôle capital dans les débuts des cartographies génétiques du génome. S'il n'y avait pas eu le CEF, il n'y aurait pas le Généton, il n'y aurait pas le CNG, il n'y aurait pas le CNS. Donc voilà le tableau qui a été le plus, qui a atteint le prix le plus cher, un très beau tableau de Balthus. À l'époque, je crois que c'était le tableau d'un peintre contemporain vivant le plus cher. Voilà, donc ça, c'est quelques belles images. Et puis, la génétique m'a conduit aussi, de temps en temps, à faire des conférences qui réunissaient l'ADN des asperges, Marcel, Édouard, Jean-Jacques et quelques autres. Et tout est parti d'une étude GWAS. Vous voyez, les études GWAS peuvent conduire à des choses inattendues. Cette étude GWAS, publiée dans une très bonne revue, PLOS Genetics, mais par des gens qui sentent un peu le soufre en France, qui viennent d'une compagnie qui s'appelle 23andMe, qui fait du direct-to-consumer, des tests génétiques sans intervention médicale, directement pour les consommateurs, mais qui font de la science aussi. Et notamment, parmi... les diverses maladies auxquelles il s'était intéressé dans cet article, il y avait des choses qui n'étaient pas des maladies, et notamment, il pose des questions à leurs clients, les clients qui payent pour se faire génotyper sur 500 000 ou 1 million de variants par ces puces SNP dont je vous ai parlé. Parmi les nombreuses questions sur la santé, sur est-ce qu'on a les cheveux frisés ou pas, est-ce que... on a plus ou moins d'empathie ou pas, n'est-ce pas ? Il y avait une question sur quand vous mangez des asperges, est-ce que votre urine sent le chou fermenté ou vous ne sentez rien ou vous ne mangez jamais d'asperges ? C'était la troisième réponse possible. ils font tourner, ils ont ces réponses et d'autre part, ils ont le génotype à 1 million de points du génome. Des gens qui ont répondu, ils font tourner l'ordinateur et ils trouvent un pic avec une signification statistique de 10 puissance moins 23. Là, il n'y a pas photo. J'ai calculé que même si on tient compte des tests multiples, puisqu'il y a 1 million de tests en fait, la valeur statistique réelle, c'est 10 moins 17. Donc, une chance sur 100 millions de milliards de trouver ça par hasard. Et donc, je dis, ce n'est plus une Manhattan plot, mais une Taipei plot, parce qu'il n'y a qu'un seul gratte-ciel. Qu'est-ce qu'il y a dans cette région du génome du chromosome 1 ? Il y a toute une série de gènes récepteurs à l'odorat. Et donc, ça n'explique pas tout. Mais en tout cas, une bonne partie du fait que certaines personnes ne sentent pas cette odeur, est-ce que c'est parce qu'ils ne la produisent pas ou parce qu'ils ne la perçoivent pas. En fait, il semble que pour 10%, c'est parce qu'ils ne la sentent pas, pour 10%, c'est parce qu'ils ne la produisent pas. Là, c'est la région génétique qui est impliquée dans la perception. Et ceci me permet, Marcel, de dire qu'il y a des gens qui sont génétiquement prédéterminés à ne pas comprendre ce texte de Marcel Proust dans, du côté de chez Swann, test où il décrit les asperges. Alors, je suis alsacien, et les asperges, en ce moment, c'est très important en Alsace. Donc, il y a une description magnifique par Marcel Proust des asperges, ces nuances célestes et ces légumes qui, à travers le déguisement de leur chair comestible et les fermes, laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes d'aurore, en ces ébauches d'arc-en-ciel, en cette extinction de soir bleu, cette essence précieuse que je reconnaissais encore quand, toute la nuit qui suivait un dîner où j'en avais mangé, elles jouaient dans leurs farces poétiques et grossières, comme une féerie de Shakespeare a changé mon pot de chambre en un vase de parfum. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a à peu près 20% de la population qui, quand ils lisent cette page de Proust, se demandent « Mais de quoi parle-t-il ?» Donc, on a au moins une partie de la réponse grâce à la génétique. Donc ça, c'est Marcel. Et puis là, il y a Édouard, cet asperge toute seule, mais surtout ce très beau tableau qui est à Cologne, avec une botte d'asperges. Édouard Manet, c'est celui qui est qui a servi de modèle pour le peintre Elstir dans La recherche du temps perdu, et celui qui lui a commandé le tableau et qui a reçu comme cadeau le petit tableau qui est au musée d'Orsay avec une seule asperge, c'est Charles Effrussi, qui est un des modèles pour Swann. Voilà. Et puis, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que je vais faire bientôt, et je termine sur mes deux dernières dias, ceux qui veulent venir à Strasbourg à l'automne, je change de direction, mais pas complètement, et je deviens commissaire d'exposition. Et donc, vous êtes chaleureusement invités, et je vous ferai une présentation personnelle d'une exposition, d'interaction entre ma collection et celle du musée. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. J'étais un peu long, mais bon, ça va à peu près. Merci pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.